Les territoires, on le sait, ont un rôle central à jouer dans la rénovation énergétique. Nous, durant cette saison 2, on va dire, du rendez-vous du Mondial du bâtiment, on met en avant une rénovation emblématique. On en parle avec les acteurs engagés. On va être dans Paris, hein, Paris 17e, avec la transformation d'une école en logement et commerce, livrée en 2020, précisément 12 rue de Monceau, dans le 8e. Pour en parler, Sandra Charpentier, bonjour.
Oui, bonjour.
Qui est chargée d'opération maîtrise d'ouvrage chez Elogie Siemp, donc bailleur social. Quelques mots supplémentaires pour présenter ce bailleur social.
Oui, donc Elogie Siemp, bailleur social de la ville de Paris. On gère un patrimoine de près de 27 000 logements, essentiellement sur Paris et un peu en banlieue également.
Alors pour conduire tout ça, conduire ces travaux, on avait besoin de vous, Nicolas Besnard, bonjour.
Oui, bonjour.
Donc l'entreprise EPBS.
EBPS.
EBPS, j'ai inversé les lettres là, voilà. EBPS, quelques mots pour vous présenter.
Entreprise générale, basée à Alfortville. On travaille sur des travaux de rénovation et réhabilitation sur Paris et Première Couronne. Et on a pu travailler avec Elogie Siemp sur le chantier du 12 rue de Monceau.
Voilà, vous allez pouvoir nous en parler. Et puis il faut aussi un architecte, et là depuis ce matin, et notamment avec l'introduction de Philippe Madec, on parle des architectes. Laurent Pillot, bonjour.
Bonjour.
Donc architecte et gérant de l'agence Virtuelle.
Virtuelle Architecture, ouais. Oui. Et donc Virtuelle Architecture, on fait tout type de réhabilitation et on est on travaille dans la réhabilitation depuis le patrimoine jusqu'aux années 90. On couture, on ravaude, on reprise tous ces bâtiments pour en faire des bâtiments qui repartent sur une nouvelle vie.
Voilà, une nouvelle vie, et c'est ce dont on parle ce matin avec cette école donc, qui a été transformée, avec un besoin dans cet arrondissement, hein, le 8e justement de logements sociaux.
Hein, oui, le 8e qui souffre d'un déficit de logements sociaux, et donc on a eu la chance de pouvoir travailler sur le sujet de la réversibilité du bâtiment. Donc la transformation d'une école en 24 logements sociaux et un local d'activité. Mm-hmm. Ça nous a permis de créer des logements de qualité, avec différentes typologies allant du T1 au T5. Donc ça nous a permis d'accueillir des familles dans cet arrondissement avec la chance d'être dans le 8e à proximité du parc Monceau.
Je crois qu'il y a peut-être un bout de... On voit la tour Eiffel, non?
Sur le toit terrasse, oui, on a une vue sur tout Paris, on voit la tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, voilà.
Et donc, vrai bonheur, moi j'ai envie d'y aller là.
Comme vous voulez, je vous invite pour visiter l'opération. Donc juste pour rappeler les grands enjeux du projet, c'était tout d'abord de respecter et de conserver le patrimoine existant, de créer des logements de qualité. Également de réaliser une réhabilitation thermique dans le cadre du plan climat de la ville de Paris, de végétaliser cette parcelle très minérale, qui était 100% minérale, donc on y a amené de la végétation, et également de faire de l'innovation, parce qu'on a développé les chaudières numériques avec Carnot Computing, on a mis deux chaudières numériques.
Alors on va rentrer un peu plus en détail, ce Carnot faisait des radiateurs numériques, maintenant oui. C'est une nouveauté, l'idée c'est un peu comme quand on dit qu'on chauffe avec des data centers, c'est un peu le même système, on va en parler un peu en détail de cette innovation, mais revenons un peu du côté de l'architecture à ce bâtiment avec vous Laurent Pillot, donc bâtiment des années 30, il y avait une super façade d'ailleurs que vous avez incarné, voilà, et vous avez joué comment avec ce bâtiment si je puis dire.
En fait comme toujours quand on fait de la réhabilitation, l'intérêt c'est de travailler avec le bâtiment, d'aller chercher son histoire, quel que soit le bâtiment, qu'il soit des années 60, 70, à chaque fois on revient vers l'architecte de départ, vers l'architecture de base. Mm-hmm. Là on est sur un bâtiment, c'était une école, mais avant d'être une école, c'était les bâtiments de la compagnie Kong,
d'accord,
qui s'occupait du bois du Congo. Donc là, ça fait un peu rêver. On arrive dans un bâtiment, on se dit waouh, il s'est passé quelque chose. Et donc ça confère deux typologies dans le bâtiment. On se retrouve avec sur la rue des bâtiments plus bureaux et logements, assez classiques et finalement assez faciles à reprendre en réhabilitation, parce que transformer du logement en logement, ça va, on y arrive. Et à l'arrière, par contre, c'était plus des entrepôts, c'était les entrepôts de la compagnie Kong. Donc là, c'est des plus grandes surfaces, même si on n'avait pas de porteur, aucun porteur, donc c'était assez facile à aménager, mais on avait, n'empêche, peu de façades. Donc ça a été un peu la complication du projet. On travaille avec cette histoire. Là-dessus, dans les années 50, je crois, c'est transformé en école. Donc, il y a aussi toute une histoire. On le voit dans la cage d'escalier centrale, où on trouve les rampes pour les enfants avec la rampe pour les adultes. Donc on garde tout ça à chaque fois. On travaille avec l'entreprise qui on va rechercher tous les éléments de l'histoire pour les remettre dans le
nouveau. Oui, parce que c'est la particularité, j'en parlais, il y a eu beaucoup de réemploi, vous venez de le dire aussi, c'est un petit peu...
Le premier réemploi, c'est le bâtiment.
Exactement, tout à fait.
Oui. Ça, c'est important. Mais après, c'est vrai qu'on a cherché à réemployer le maximum possible en se battant plus ou moins sur un certain nombre d'éléments. Le meilleur réemploi, c'est quand même de garder sur place les choses, de ne pas les bouger. Et bon, pour anecdote, et je vais venir directement à cette anecdote, on a à l'arrière de toute la zone entrepôt, il y avait un escalier de service avec un ascenseur de service qu'on ne réutilisait plus puisqu'on a gardé qu'une seule cage d'escalier, la cage d'escalier principale. Plutôt que de démolir et de supprimer ce bel élément architectural, parce qu'on avait des grilles d'époque avec l'ascenseur, avec les numéros d'étage sur chaque ascenseur ou combalusier, comme il se doit et comme on les imagine dans les bâtiments de cette époque, on s'est retrouvé à travailler à un logement où on a gardé l'escalier, on a gardé la cage d'ascenseur. Et pour aller dans la cuisine, en fait, on ouvre la porte de la cage d'ascenseur. Là, il y a eu un très beau travail de l'entreprise, de BPS. On est venu restaurer cet ascenseur. On a juste comblé, effectivement, parce qu'il fallait quand même combler les vides. Mais on a comblé et on en a fait une cuisine. Là aussi, on peut remercier le bailleur qui a joué le jeu, parce que, accepter que la cuisine d'un T5 soit une cage d'ascenseur, fallait expliquer quand
même. C'est un peu particulier.
Surtout qu'on a gardé l'escalier qui monte, mais on a bloqué les niveaux. Donc on a dans la cuisine un escalier qui monte nulle part et qui ne sert à rien a priori, mais qu'on a conservé.
Et qui fait une jolie décoration, quelque chose d'original.
Qui fait une jolie décoration et qui fait que c'est là où les enfants vont. La première chose qu'on a vue chez les gens, les locataires, c'est que les enfants se mettent là et ils regardent du haut, et c'est tellement un endroit magique, pourquoi ne pas le garder?
Exactement, alors justement, parce que pour faire rebondir Nicolas Besnard aussi, pour ce que ça a représenté pour vous aussi ces travaux, peut-être avec quelques challenges à relever d'après ce que j'ai entendu.
En effet, la récupération des éléments serruriers des cages d'ascenseur était un vrai défi, déjà pour la dépose en conservation, ne pas abîmer les anciennes soudures, les métaux qui n'ont pas les mêmes propriétés qu'aujourd'hui. On a dû les déposer, les envoyer dans un bâtiment avec tout le matériel d'aspiration nécessaire, puisque les peintures n'étaient pas forcément inhalables à la réparation. Et on a travaillé avec des entreprises qui sont dans la région pour limiter au maximum les travaux, les transports, et on a réussi à les intégrer dans les cloisons, les nouvelles cloisons, faire en sorte que l'utilisation soit pas trop bruyante avec les enfants qui poussent la porte, qui tapent, que ça fasse pas trop résonner dans ce T5 qui a une belle hauteur sous plafond et potentiellement des résonances désagréables.
Vous avez dit qu'il y a une réflexion même globale au-delà du bâtiment aussi sur l'impact des travaux d'après ce que vous dites. Oui.
En fait, il y a aussi toute une partie de ce chantier qui a été surveillée par la certification CERCAL qui était à un niveau assez exigeant. Pour lequel on avait toute une liste de points à balancer, contrebalancer pour avoir ce certificat et les exigences acoustiques du bâtiment et de cette certification nous ont demandé à être très vigilants sur la plupart des demandes.
Et on a dû d'ailleurs ne pas conserver les parquets à cause de ça. Il fallait avoir une exigence acoustique de logement à logement qui fait qu'on a dû déposer les parquets. Et ils étaient cloués, et on n'a pas réussi à les conserver. Ça a été une petite bataille.
J'imagine que vous avez un peu arraché les cheveux, si je peux dire, Sandra Charpentier.
On est en NF Habitat HQE, ce qui est quand même une certification assez importante pour un bâtiment en réhabilitation.
Parce que vous, ce que vous visez, c'est la qualité aussi.
Oui,
c'est ça aussi qu'il faut le dire. C'est pour ça qu'il faut comprendre aussi ce degré d'exigence dont on est en train de parler là.
Oui, on vise la performance thermique maximum sur l'ensemble de nos projets.
Mmh. Mais ça aussi, ça coûte cher, j'imagine. Je vous pose la question qui fâche, mais bon, qui revient tout le temps aussi.
Bah, on essaye de trouver le bon équilibre entre l'obtention de la performance thermique et rentrer dans notre budget, oui.
Oui, très clairement. Mais bon, ouais.
C'est un patrimoine qui va rester, qui est là, qui a une très bonne structure, donc qui va rester. Et l'investissement, à mon avis, effectivement, il y a de l'investissement, ça, je suis d'accord.
Mais il y a des économies d'énergie aussi à la clé, j'imagine. Oui. Vu le contexte, on n'arrête pas d'en parler aussi, en particulier pour ceux qui habitent dans des logements sociaux, c'était aussi l'objectif, j'imagine.
On a une étiquette B, et justement, en parallèle, on a mis en place les chaudières numériques qui permettent de préchauffer le retour de l'eau chaude sanitaire gratuitement, du coup, pour les locataires.
D'accord. Donc c'est le même principe que le radiateur numérique, sauf que là ce sont des chaudières. Quoi. On peut dire que c'est une forme de mini data center qui chauffe
ça. C'est comme une petite tour d'ordinateur qui préchauffe l'eau en fait.
Et ça a été inauguré, on va dire, dans ce bâtiment. Enfin, c'était vraiment quelque chose d'assez nouveau et innovant pour vous.
Nous, c'était innovant. Ouais. C'était notre premier projet pour Elogiscamp et c'était un des premiers projets de logements sociaux sur Paris pour Carnot. Ouais.
Typiquement. Donc ça, c'était important.
Et alors, il y a un autre aspect. Ensemble, parce que justement, comme c'est une innovation, il faut s'adapter ensemble pour répondre à l'ensemble des normes. Voilà, donc ça a été un gros travail avec Arnaud aussi là-dessus.
J'imagine, parce que voilà, c'est tout neuf aussi, donc comment ça se calcule, comment ça se mesure, c'est peut-être pas si simple que ça. Et alors il y a un autre aspect, vous avez parlé de jardin partagé, parce que bon, il y a pas de balcon, mais il y a une terrasse, c'est ça, comment ça fonctionne?
Il n'y avait pas de balcon. On a recréé des petites loggias dans certains logements, dans les T5 notamment, en creusant la façade existante. Mais on n'a effectivement pas de balcon sur ce logement. On a découvert ensemble et on a suivi pendant le chantier, on a fait quelques apéritifs là-haut, une terrasse qui domine tout Paris. Donc c'était difficile de ne pas la donner aux locataires et de ne pas en faire profiter les locataires. Donc Elogiscamp était d'accord pour en faire une terrasse partagée. On a là-haut, je ne sais plus combien de mètres carrés, une centaine de mètres carrés de...
Oui, 150.
De terrasse partagée, qui a été initiée au départ par Mugo.
Oui, alors on a installé des bacs potagers, et du coup, pour favoriser l'appropriation de ce jardin partagé, on a mandaté Mugo Paysage, qui anime depuis la livraison, et qui continue encore, des ateliers potagers, pour justement tout ce qui a été préparé des bacs, qu'est-ce qu'on plante, quand est-ce qu'on le plante, et donc toute cette animation, c'est très sympathique à voir avec les locataires et les enfants.
L'idée, c'est de faire de la sensibilisation finalement aussi à ces sujets-là, et pour vous, ça vous tient à cœur,
c'est de l'appropriation, et puis c'est pour créer aussi une dynamique de groupe au sein de l'immeuble, parce que c'est vraiment un très bel endroit et ce serait dommage de ne pas le faire vivre.
Et ils sont bons, ces légumes?
Je me suis pas permis de goûter, mais j'ai vu qu'en tout cas ils avaient la main verte.
Ils avaient la main verte sur cet aspect là. Toiture, vous Nicolas Messard.
Sur la toiture, on en a beaucoup profité pendant le chantier.
Mais j'ai bien compris qu'il y avait des apéros.
De remonter là-haut. Mais en termes de complexité, de mise en place, nous, le chantier, ça a été surtout toute l'articulation de l'amener et repli et évacuation des gravats de curage et des matériaux de construction à la suite.
C'était de les réutiliser, c'est ça aussi? C'est ce qui sortait du chantier aussi.
Ce qui sortait du chantier était on avait une obligation de mise en valeur énergétique des déchets à 95%, me semble. Donc on avait toute une partie de récupération des bois, des tris des déchets. Pour les gravats, ça a été réutilisé sur des décharges spécifiques. C'est l'architecture du bâtiment qui créait une certaine complexité sur les échafaudages à mettre en place. Alors on a été accompagné par nos échafaudeurs pour faire un accès le plus sécurisé possible. Sur la terrasse en elle-même, la partie un peu sympa de cette terrasse, c'était la sortie de l'ascenseur qui lui donne directement à l'extérieur avec une verrière qui donne tout de suite une lumière et une vue sur le tout Paris assez impressionnant.
Oui. Ouais, faut savoir qu'on arrive au 7e ciel puisque Virtuel Architecture nous a proposé de sympathiques jeux de mots pour chaque niveau faisant un rappel la plupart du temps à l'école, ouais. Mais le dernier étage s'appelle le 7e ciel.
D'accord. On aurait pu faire une forme de marelle aussi.
C'était un peu l'idée. Ça m'inspire. Parce qu'on a récupéré, il y avait un fronton d'école avec Liberté, Égalité, Fraternité, République Française, tout ça. Donc on a récupéré ces lettres et on a fait des jeux de mots à chaque étage pour essayer de récupérer le maximum de lettres. Il a fallu quand même qu'on en dessine quelques-unes parce qu'on n'a pas réussi à tout faire.
Alors c'est justement le réemploi, on en parle de plus en plus, mais on dit que c'est pas si simple que ça le réemploi, quand même.
Oui, ben c'est très compliqué.
Parce qu'il y a la complexité technique, mais pas seulement. Il y a aussi des questions d'assurance parfois derrière. On dit on va réutiliser un matériau, mais on ne sait pas finalement.
Le plus gros réemploi, parce que c'est vrai qu'on était un peu aux prémices du réemploi. On a fait beaucoup de réemploi de décoration. Mm-hmm. Ça, c'est assez facile.
Ça, c'est facile.
Et on a réutilisé des monts de charge, des pièces de monts de plat, d'autres choses pour faire des décorations. Les lettres, les patères des enfants qu'on a mis sur les paliers des logements. Par contre, ça a été un peu plus compliqué, c'est les radiateurs, parce que tout de suite, là, on tombe dans de la technique et...
Il a fallu déjà faire un travail de recherche sur les radiateurs pour connaître leur puissance. Puisque c'était des radiateurs qui, de magnifiques radiateurs ornés, fleuris.
Décorés, oui.
Et donc il a déjà fallu connaître leur puissance et les intégrer dans les pièces, leur trouver une place en fonction de la place disponible et faire tout un équilibrage avec ces radiateurs. Mais surtout, les déposer en conservation, les envoyer en rénovation, on les a désemboués, nettoyés, repeints. Relaquer pour les replacer numérotés dans la pièce qui leur convenait.
Alors j'imagine il faut faire preuve d'inventivité dans cette histoire finalement. Mm-hmm. Est-ce que ça réinvente un peu vos métiers, vous dans l'architecture et vous en tant que conducteur de travaux, Nicolas Mesnard?
Il faut trouver les personnes qui sont capables de faire ces calculs-là et de les certifier pour justement l'étiquette du bâtiment, et c'est pas toujours évident.
Mm-hmm. C'est un bonheur de travailler avec des entreprises qui veulent bien, ouais. Qui y vont, qui jouent le jeu, avec des batailles à chaque réunion de chantier, des découvertes à chaque réunion de chantier. Ça n'a pas toujours été facile, mais à chaque fois on réinvente un peu le monde sur des nouveaux challenges. Des ascenseurs qui tombent pas bien, c'est le bonheur de la réhabilitation. C'est à la fois il y a ce bonheur, mais je voulais aussi revenir sur le fait que ça permet de créer des espaces qui sont pas dans la norme du logement social aujourd'hui. On arrive à créer autre chose, on arrive à créer des surprises, on arrive à créer des logements qui ont plus de poésie, plus de que le bâtiment totalement normé qu'on est obligé de créer aujourd'hui avec où la surface est donnée, où l'enchaînement des pièces est donné, où on a des surfaces minimum qu'on pourrait dépasser, mais comme on a des budgets limités, ben on se met toujours au minimum. Donc on arrive à des logements types qui finalement, on le voit bien aujourd'hui, on travaille plus sur les façades que sur la typologie de logement.
Donc on voit vraiment que c'est ce qui vous plaît. J'allais dire, vous avez plutôt envie d'aller là-dedans à Virtuel Architecture.
Ah oui, nous, on adore. on est des couturiers de l'architecture. Et on reprise les bâtiments. C'est vrai que ça permet de découvrir, de créer des nouveaux espaces. Mmh. Beaucoup plus, finalement, aujourd'hui que dans le neuf, où on est très contraint par la norme. Et là, on arrive, quand les bailleurs nous suivent et quand les entreprises sont partantes, on arrive à faire des trucs magnifiques.
Donc Nicolas Besnard, vous le referiez avec grand plaisir.
Avec grand plaisir, oui, c'est sûr.
Et vous allez aussi, est-ce que ça a été assez justement innovant pour vous? Est-ce que ça vous a permis aussi d'évoluer, peut-être de vous tourner aussi vers d'autres types de chantiers?
Tout à fait. Ben, j'ai adoré la partie intégration des radiateurs, tout ce qui était système de chauffe, l'intégration du système Carnot dans la chaufferie. Ça a été vraiment très intéressant. Toute la partie serrurerie et matellerie, réemploi, qui a été vraiment très intéressante à réintégrer en discussion avec l'architecte sur des adaptations à faire techniques pour garantir la tenue et la sécurité des résidents. Aujourd'hui, je suis toujours aussi intéressé par la rénovation et la réhabilitation. C'est des défis qui nous plaisent beaucoup chez EBPS, de redonner vie à un immeuble, de lui redonner une nouvelle fonction, une nouvelle façade, un nouveau regard de la part des passants.
Et alors, Sandra Charpentier, vous avez un bilan à tirer, j'allais dire, de cette rénovation?
Moi, j'ai beaucoup apprécié de travailler sur ce projet. On a été vraiment une bonne équipe et on est très fiers du projet qu'on a sorti. On a même la petite larme à l'œil, on ne voulait pas le livrer.
Notamment le T3 qui venait sur la Tour Eiffel.
Sur la Tour Eiffel, voilà. Et on est très fiers de notre projet et on espère que... On pense d'ailleurs de ce que nous ont dit les locataires, ils sont très contents d'habiter là-bas et...
Et vous, chez Logis Sciences, vous le disiez, hein, vous allez de plus en plus vers la réversibilité aussi. C'est des choses vers lesquelles vous accédez de plus en plus.
On a beaucoup de projets de transformation de bureaux en logements. On en a de plus en plus. Et c'est très intéressant pour nous, justement, de travailler là-dessus. Et sur toutes les questions de réemploi, de performance thermique, d'apport de matériaux biosourcés, voilà, on sent qu'il y a vraiment une évolution dans ce sens. Et on doit travailler là-dessus. Et ça nous fait plaisir.
Bah merci en tout cas à tous les trois. On voit que vous êtes bien entendus, on va dire, dans cette histoire, parce que vous avez commenté les uns et les autres aussi cette réalisation, cette transformation d'une école en logement et commerce, donc à Paris, dans le 8e, 12 rue de Monceau. Merci à vous, Sandra Charpentier, chargée d'opération maîtrise d'ouvrage chez Logis Sciences, à Nicolas Besnard, conducteur travaux à l'entreprise EBPS, cette fois-ci, je le dis dans le bon ordre, et Laurent Pillot, architecte et gérant de Virtuelle Architecture. Merci à vous d'être venus.